Chapitre 3 Confidence. Lorsque Maggie monta à sa chambre ce soir-là, elle ne parut point disposée à se déshabiller. Elle posa sa lumière sur la première table venue et se mit à marcher de long en large dans cette grande chambre d'un pas ferme, régulier et plutôt rapide, qui témoignait de sa vive animation. Ses yeux et ses joues avaient un éclat presque fébrile. Sa tête était rejetée en arrière et elle joignait ses mains, la paume tournée en dehors, avec cette tension des bras qui accompagne souvent l'absorption mentale. Lui était-il arrivé quelque chose de remarquable, d'extraordinaire? Rien que vous puissiez probablement considérer comme ayant la plus légère importance. Elle avait entendu de la belle musique, chantée par une belle voix de basse, mais chantée comme peut le faire un amateur provincial, qui aurait laissé bien la désirer à votre oreille de critique. Elle avait le sentiment d'avoir été beaucoup regardée, presque à la dérobée, de dessous une paire de sourcils droits et bien marqués, par des yeux qui semblaient en quelque sorte avoir acquis l'influence vibrante de la voix. De telles choses n'auraient pu laisser apercevoir le moindre effet sur une jeune personne complètement bien élevée, ayant tous les avantages de la fortune, de l'éducation et d'un entourage élégant. Mais si Maggie eût été cette jeune personne, vous n'auriez probablement rien entendu dire d'elle. Sa vie aurait eu si peu de vicissitudes qu'on aurait à peine pu l'écrire. Car les plus heureuses femmes, comme les nations les plus heureuses, n'ont pas d'histoire. Pour la pauvre nature fortement comprimée et affamée de Maggie, qui venait de quitter un pensionnat de troisième ordre, avec tous ses bruits discordants et ses mesquines occupations monotones, ses causes, en apparence bien ordinaires, eurent pour effet de monter et d'exalter son imagination à un point qui était un mystère pour elle-même. Ce n'est pas qu'elle pensa distinctement à M. Stephen Guest, ou s'arrêta sur les indices de l'admiration avec laquelle il l'avait regardée. C'était plutôt qu'elle sentait la présence immédiate d'un monde d'amour, de beauté et de délices, composé d'images vagues et mélangées de toutes les poésies ou romans qu'elle avait jamais lus, ou auxquels elle avait aspiré dans ses songes rêveurs. Une ou deux fois, sa pensée se reporta au temps où elle avait recherché la privation, où elle avait cru avoir dompté tout désir, toute impatience. Mais cet état semblait détruit irrévocablement, et elle reculait devant ce souvenir. Aucune prière, aucun effort ne pourrait maintenant ramener cette paix négative. La lutte de sa vie paraissait ne pas devoir se décider d'une manière aussi prompte, aussi facile que par un renoncement complet, quand elle entrait à peine dans sa jeunesse. La musique vibrait encore en elle. La musique de Pinceau, avec ses fantaisies et sa passion sauvage, et elle ne pouvait plus s'arrêter sur le souvenir de son passé vide et désolé. « Comment, Maggie, méchante enfant, tu n'as pas encore commencé à te déshabiller ?» dit Lucy étonnée. « Je t'ai promis de ne pas venir vers toi, parce que je croyais que tu devais être fatiguée. Puis te voilà comme disposée à t'habiller pour un bal. » « Allons, allons, mets vite ta robe de chambre et défais tes cheveux. »« Eh bien, mais tu n'es pas très en avance toi-même, » répondit Maggie, en prenant à la hâte sa robe et en regardant les cheveux de Lucy rejetés en arrière et bouclant en désordre. « Oh, je n'ai plus grand-chose à faire. Je vais m'asseoir et te parler jusqu'à ce que je te voie vraiment prête à entrer au lit. » Pendant que Maggie déroulait ses longs cheveux noirs, Lucy, assise près de la table de toilette, la regardait avec des yeux affectueux et penchait un peu la tête comme un joli petit épagneul. S'il vous paraît tout à fait incroyable que des jeunes personnes soient entraînées à une conversation confidentielle dans une situation semblable, je vous prierai de vous rappeler que la vie humaine fournit beaucoup de cas exceptionnels. Tu as vraiment joui de la musique ce soir, n'est-ce pas, Maggie? Oui, certainement. C'est ce qui m'a empêché de sentir le sommeil. Je crois que je n'aurais point d'autre désir au monde si je pouvais toujours entendre de la musique. Il semble qu'elle infuse de la force dans mes membres et des idées dans mon cerveau. La vie paraît couler sans effort quand je suis imprégné de musique. Dans d'autres moments, il me semble que je porte un fardeau. Et Stephen a une superbe voix, n'est-ce pas? Il se peut que nous n'en soyons ni l'un ni l'autre bon juge, dit Maggie, qui rit en s'asseyant et rejetant ses cheveux en arrière. « Tu n'es pas impartial, et je trouve superbe jusqu'aux orgues de barbarie. Mais dis-moi ce que tu penses de lui à présent. Dis-le-moi exactement le bien comme le mal. »« Oh, je crois que tu devrais le rendre un peu plus humble. Un amoureux ne devrait pas être si à son aise et si content de lui-même. Il devrait être plus tremblant devant toi. Quelle idée, Maggie! Comme si quelqu'un pouvait trembler devant moi. Tu le trouves content de lui-même, je vois bien. Mais il ne te déplaît point, n'est-ce pas? Me déplaire? Non. Ai-je l'habitude de voir fréquemment des personnes aimables pour qu'il soit difficile de me plaire? Et puis, comment pourrais-je ne pas aimer quelqu'un qui a promis de te rendre heureuse, ma chérie? Et Maggie pinça le petit menton à fossette de Lucy. Nous aurons encore plus de musique demain soir, dit Lucy en paraissant heureuse d'avance, car Stephen amènera Philip Wakeham avec lui. Oh, Lucy, je ne puis le voir, dit Maggie en pâlissant. Au moins, je ne puis le voir sans la permission de Tom. Est-ce que Tom est un tel tyran? Dit Lucy surprise. J'en prendrai la responsabilité alors. Tu lui diras que cela a été ma faute. Mais, ma chère, dit Maggie en hésitant, j'ai promis à Tom très solennellement, avant la mort de mon père, je lui ai promis de ne pas parler à Philippe à son insu et sans son consentement. Et j'ai une grande frayeur d'aborder ce sujet avec Tom, de me disputer de nouveau avec lui. Mais je n'ai jamais rien entendu de si singulier et de si déraisonnable. Quel mal peut avoir fait le pauvre Philippe? Puis-je parler à Tom à ta place? Oh non, je t'en prie, ne le fais pas, chérie. J'irai moi-même vers lui demain, lui dire que tu désires que Philippe vienne. J'avais déjà pensé avant à lui demander de me dégager de ma promesse, mais je n'ai pas eu le courage de m'y décider. Elles demeurèrent quelques instants silencieuses, puis Lucy dit « Maggie, tu as des secrets pour moi, et je n'en ai point pour toi. » Maggie resta pensive sans regarder Lucy. Puis elle se tourna vers elle et lui dit « J'aimerais te raconter ce qui concerne Philippe. » Mais Lucy, tu ne dois jamais montrer à personne que tu en saches quelque chose. Moins à Philippe qu'à tout autre, ou à M. Stephen Guest. Le récit fut long, car Maggie n'avait jamais connu auparavant le soulagement d'une semblable confidence. Elle n'avait jamais encore fait connaître à Lucy la moindre chose de sa vie intime, et le doux visage se penchant vers elle avec un intérêt sympathique, et la petite main qui pressait la sienne, l'encourageait à parler. Sur deux points seulement, elle fut moins expansive. Elle ne trahit point entièrement ce qui rongeait toujours son esprit, comme étant le plus grand tort de Tom, les insultes dont il avait accablé Philippe. Quelque douloureux que ce souvenir pût être, elle ne pouvait supporter la pensée de le faire connaître à d'autres, soit à cause de Philippe, soit à cause de son frère. Elle dit seulement qu'elle reconnaissait maintenant que Tom avait raison de regarder toute perspective d'amour et de mariage entre elle et Philippe comme mise hors de question par la position respective des deux familles. Il allait sans dire que le père de Philippe n'y consentirait jamais. « Voilà, Lucy, tu as entendu mon histoire, » dit Maggie en souriant et les larmes aux yeux. « Tu vois que je suis comme le seigneur Andrew Aguecheek. J'ai été adoré une fois. »« Ah, je comprends maintenant comment tu connaissais Shakespeare et tant d'autres, et comment tu as appris une infinité de choses depuis que tu as quitté la pension, ce qui me paraissait toujours tenir du sortilège. » Cela faisait partie de ton malaise général, dit Lucy. Elle réfléchit un instant, les yeux baissés, puis ajouta en regardant Maggie, c'est bien beau de ta part d'aimer Philippe. Je n'aurais jamais cru qu'un tel bonheur pût lui arriver. Et dans mon opinion, tu ne devrais pas renoncer à lui. Il y a des obstacles maintenant, mais avec le temps, ils peuvent être surmontés. Maggie secoua la tête. Si, si, dit Lucy en persistant. Je ne puis m'empêcher d'en avoir l'espoir. Il y a là quelque chose de romanesque, justement tout ce qui doit se trouver dans ce qui peut arriver à toi. Et Philippe t'adorera comme un mari des contes de fées. Oh, je vais tourmenter un peu mon petit cerveau, afin de trouver quelque moyen de mettre dans la bonne voie l'esprit de chacun, et pour que tu puisses épouser Philippe quand j'épouserai une autre personne. Cela ne serait-il pas une jolie fin de tous les chagrins de ma pauvre Maggie? Maggie essaya de sourire, mais frissonna comme si elle sentait un froid soudain. « Ah, chère, tu as froid, » dit Lucy. « Il faut te mettre au lit, et moi de même. Je n'ose pas penser à l'heure qu'il peut être. » Elles s'embrassèrent et Lucy sortit, en possession d'une confidence qui, plus tard, eut une grande influence sur ses impressions. Maggie avait été tout à fait sincère. Sa nature eût difficilement pu ne pas l'être. Mais les confidences trompent quelquefois, lors même qu'elles sont sincères. Chapitre 4 Frères et sœurs. Maggie fut obligée d'aller chez son frère au milieu du jour, à l'heure où il rentrait pour dîner. Autrement, elle ne l'aurait pas trouvé. Il ne demeurait pas chez des gens complètement étrangers. Notre ami Bob Jakin avait pris, avec le consentement tacite de Mumps, non seulement une femme, depuis environ 8 mois, mais aussi une de ces singulières maisons percées de passages tortueux conduisant au bord de l'eau. Et comme il le disait, sa femme et sa mère pourraient se garantir de l'ennui en louant aux promeneurs 2 bateaux d'agrément auxquels il avait consacré un peu de ses économies et en prenant un locataire pour le salon et la chambre à coucher, qu'ils avaient de trop. En de semblables circonstances, que pouvait-il y avoir de plus avantageux pour les intérêts des 2 parties que le locataire fût M. Tom? La femme de Bob ouvrit la porte à Maggie. C'était une petite personne, offrant l'apparence générale d'une poupée hollandaise. Comparée à la mère de Bob, qui, se tenant un peu en arrière, remplissait le corridor de sa corpulence, elle ressemblait à une de ces figures humaines que l'artiste trouve convenable de placer près d'une statue colossale pour en montrer les proportions. La petite femme fit sa révérence et regarda Maggie avec un étonnement respectueux dès qu'elle eut ouvert la porte. Mais au mot « Mon frère est-il à la maison ?» que Maggie proféra en souriant, elle se retourna avec précipitation et dit « Hé, mère, mère, dites à Bob, c'est Miss Maggie !»« Entrez, Miss, ayez cette bonté, » continua-t-elle en ouvrant une porte de côté et s'efforçant de s'effacer contre le mur pour laisser le plus de place possible à la visiteuse. De tristes souvenirs assaillirent Maggie en entrant dans le petit salon qui était maintenant tout ce que le pauvre Tom pouvait appeler son chez-lui. Ce mot qui avait naguère représenté pendant si longtemps, pour l'un et l'autre, la possession des mêmes objets chers et familiers. Mais tout ne lui était pas étranger dans cette nouvelle chambre. La première chose sur laquelle ses yeux tombèrent fut la vieille grosse Bible. Et cette vue ne fut pas très propre à dissiper les anciens souvenirs. Elle restait sans parler. « Si vous voulez bien prendre l'avantage de vous asseoir, miss, » dit Madame Jakin en frottant avec son tablier le dessus d'une chaise parfaitement propre, et ensuite restant debout, l'air embarrassé, et regardant Maggie avec étonnement. « Bob est à la maison alors ?» demanda Maggie, revenant à elle-même et souriant à la timide poupée hollandaise. « Oui, miss, mais je suppose qu'il se lave et s'habille. Je vais voir, » dit Madame Jakin en disparaissant. Mais elle revint bientôt, marchant avec un nouveau courage, un peu en arrière de son mari, qui montra ses brillants yeux bleus et la régularité de ses dents blanches dès l'entrée de la chambre, en saluant respectueusement. « Comment vous portez-vous, Bob ?» dit Maggie, allant à sa rencontre et lui tendant la main. « J'ai toujours eu l'intention de venir faire visite à votre femme, et je reviendrai une autre fois exprès pour cela, si elle le veut bien. » Mais j'ai été obligé de venir aujourd'hui pour parler à mon frère. Il sera bientôt ici, miss. Il fait joliment son chemin, monsieur Tom. Ce sera un des principaux de l'endroit, vous verrez ça. Très bien, Bob. Je suis sûr que, quoi que ce soit qu'il devienne, c'est à vous qu'il le devra. Il le disait lui-même l'autre soir en parlant de vous. Hé, miss, c'est sa manière de prendre l'affaire. Mais je crois mieux une chose quand c'est lui qui l'a dit. Parce que sa langue ne le devance pas comme la mienne. Seigneur, je ne vaux pas plus qu'une bouteille débouchée, bien sûr. Je ne puis m'arrêter quand une fois je commence. Mais vous avez bien bon visage, miss. Ça me fait du bien de vous regarder. Qu'en dis-tu à présent, Prissy ? Ici, Bob se retourna vers sa femme. Est-ce que tout ce que je t'ai dit n'est pas la vérité ? Quoiqu'il n'y ait pas beaucoup d'espèces de marchandises dont je ne puisse exagérer la valeur. Le petit nez de Madame Bob sembla suivre l'exemple de ses yeux en se dirigeant respectueusement vers Maggie. Mais cette fois, elle put sourire en faisant une révérence et dire « Je ne souhaitais rien tant que de vous voir, miss, car la langue de mon mari n'a cessé de galoper à votre sujet, comme s'il avait la tête dérangée dès le premier moment où il m'a fait la cour. »« Bien, bien, » dit Bob, l'air presque embarrassé. « Va surveiller le dîner, autrement Monsieur Tom sera obligé d'attendre. » « J'espère que Mumps est en bon terme avec Madame Jakin, Bob, » dit Maggie en souriant. « Je me rappelle que vous me disiez qu'il n'aimerait pas vous voir marié. »« Eh, miss, » dit Bob gaiement, Il s'est fait à cela quand il a vu qu'elle était si petite. Il fait semblant de ne presque pas la voir, ou plutôt de supposer qu'elle n'a pas encore toute sa croissance. Quant à Monsieur Tom, Miss, ajouta Bob en abaissant la voix et devenant sérieux, il est aussi renfermé qu'un coffre-fort. Et quand j'ai fini de porter ma balle que je suis inoccupé, j'ai plus de cervelle que je ne puis en employer, et je suis obligé de m'occuper de ce qui se passe au-dedans des autres. Et cela me tourmente de voir Monsieur Tom pouvoir rester si sombre, à froncer le sourcil en regardant le feu le soir. Il faudrait qu'il s'égaillât un peu, un beau jeune homme comme lui. Ma femme me dit que lorsqu'elle entre chez lui quelquefois, il ne fait pas attention à elle, qu'il reste assis le front plissé et regarde le feu comme s'il y surveillait des travailleurs. « Il est si occupé d'affaires, » dit Maggie. « Oui, » dit Bob en parlant plus bas. « Mais croyez-vous qu'il n'y ait rien d'autre, miss ? Il est renfermé, monsieur Tom, sûr. Mais je suis faim, et j'ai pensé aux environs de Noël que j'avais trouvé un côté faible en lui. C'était à l'occasion d'un petit épagneul noir, une petite race très rare, qu'il s'est donné terriblement de peine à se procurer. Mais depuis ce moment, il lui est arrivé quelque chose, car il a serré les dents contre tout, encore plus que jamais, malgré toute la bonne chance qu'il a. Et je désirais vous le dire, miss, parce que j'ai pensé que vous pourriez tirer quelque chose de lui, à présent que vous êtes venue. Il vit beaucoup trop solitaire. Je crains d'avoir bien peu de pouvoir sur Bob, dit Maggie, assez émue de l'idée de Bob. C'était une pensée toute nouvelle pour elle, que Tom put aussi avoir ses chagrins. Pauvre garçon, et amoureux de Lucy encore. Mais peut-être n'était-ce qu'une supposition fantasque du cerveau trop officieux de Bob. Le présent de ce chien ne signifiait rien de plus que l'affection de parenté et de la reconnaissance. Mais Bob avait déjà dit « Voici Monsieur Tom » et la porte extérieure s'ouvrait. « Il n'y a pas de temps à perdre, Tom, » dit Maggie, dès que Bob eut quitté la chambre. « Il faut que je te dise tout de suite pourquoi je suis venu. Autrement, je t'empêcherai de prendre ton dîner. » Tom était debout, le dos tourné contre la cheminée, et Maggie était assise en face du jour. Il remarqua qu'elle était tremblante, et il eut un pressentiment du sujet dont elle allait parler. Cela rendit sa voix plus forte et plus sèche lorsqu'il dit « De quoi s'agit-il ? » Ce ton excita l'esprit de résistance chez Maggie, et elle présenta sa requête sous une forme toute différente de celle qu'elle avait préparée. Elle se leva de sa chaise et, regardant Tom en face, elle lui dit « Je te demande de me délier de ma promesse au sujet de Philip Wakeham. Ou plutôt, je te promets de ne pas le voir sans que tu le saches. Je suis venu pour te dire que je désire le voir. » « Très bien, » dit Tom, encore plus froidement. Mais Maggie eut à peine fini de parler de cette manière provocante qu'elle se repentit et sentit la crainte de s'aliéner son frère. « Ce n'est pas pour moi, cher Tom. Ne te fâche pas. Je ne te le demanderai pas si, comme tu le sais, Philip n'était un ami de Lucy, qui désire qu'il vienne. Elle l'a invité pour ce soir, et je lui ai dit que je ne pouvais le voir sans t'en prévenir. Je ne le verrai qu'en présence d'autres personnes. Il n'y aura plus rien de secret entre nous. » Tom détourna les yeux de dessus Maggie en fronçant les sourcils pendant un moment. Ensuite, il la regarda, et lui dit lentement et posément « Tu sais quel est mon sentiment à ce sujet, Maggie. Il n'est pas nécessaire que je répète rien de ce que je t'ai dit il y a 3 ans. Tandis que notre père vivait, je me sentais engagé à employer tout mon pouvoir sur toi pour t'empêcher de le déshonorer, ainsi que toi-même et nous tous. Maintenant, je dois te laisser libre. Tu désirais être indépendante, tu me l'as dit après la mort de mon père. Mon opinion n'a pas changé. Si tu penses encore à Philip Wakeham comme étant amoureux de toi, tu dois renoncer à moi. Je ne le désire pas, cher Tom, dans l'état actuel des choses. Mais je partirai bientôt pour une autre place, et j'aimerais que nous puissions encore nous revoir, lui et moi, comme amis, pendant que je suis ici. Lucy le désire. » Les traits de Tom perdirent un peu de leur sévérité. « Je ne craindrais pas que tu le voies quelquefois chez mon oncle. » Je ne tiens pas à ce que tu attires l'attention sur toi à cet égard. Mais je n'ai pas confiance en toi, Maggie. Tu peux être entraînée à tout. » C'était une parole cruelle. Les lèvres de Maggie commencèrent à trembler. « Pourquoi dis-tu cela, Tom? C'est très dur de ta part. N'ai-je pas tout fait et tout supporté, aussi bien que je l'ai pu? Et j'ai tenu parole lorsque ma vie n'a pas été heureuse, pas plus que la tienne. » Elle redevenait forcément enfant. Les larmes arrivèrent. Quand Maggie n'était pas en colère, elle était sous l'influence d'un mot bienveillant ou froid, tout autant qu'une pâquerette dépend du soleil ou des nuages. Le désir d'être aimée la dominait toujours, comme naguère il la subjuguait dans le vieux Galta. La bonté de Tom répondit autant que possible à cet appel. Mais elle ne put se montrer qu'à sa manière à lui. Il posa délicatement sa main sur le bras de Maggie et lui dit du ton d'un affectueux pédagogue « À présent, écoute-moi, Maggie. Je vais te dire ce que j'entends. Tu es toujours dans les extrêmes. Tu n'as ni jugement ni empire sur toi-même. Et cependant, tu penses en savoir davantage que d'autres et tu ne veux pas te soumettre à être dirigé. Tu sais que je ne désirais pas que tu prennes une place. Ma tante Paulette consentait à te recevoir chez elle, et tu aurais pu vivre respectablement au milieu de tes parents jusqu'à ce que je fusse arrivé à me procurer une maison pour toi et ma mère. C'est encore ce que je désire que tu fasses. Je souhaitais que ma sœur fût une personne comme il faut, et j'aurais toujours pris soin de toi jusqu'à ce que tu fusses bien marié, comme mon père l'a désiré. Mais tes idées et les miennes ne sont jamais d'accord, et tu ne veux pas céder. Cependant, tu devrais avoir assez de bon sens pour comprendre qu'un frère qui va dans le monde et vit dans la société des hommes connaît nécessairement ce qui est bien et respectable, mieux que sa sœur elle-même ne le peut. Tu crois que je ne suis pas bienveillant, mais ma bienveillance ne peut s'exercer que dans ce que je crois être bon pour toi. Oui, je le sais, cher Tom, dit Maggie, sanglotant encore, mais essayant de retenir ses larmes. Je sais que tu ferais beaucoup pour moi. Je sais combien tu travailles et combien tu te ménages peu. Je suis très reconnaissante. Mais, en vérité, tu ne peux pas complètement juger pour moi. Nos caractères sont si opposés. Tu ne peux savoir quel effet différent les choses produisent sur toi ou sur moi. Oui, je le sais. Je le sais trop bien. Je comprends comme tu as dû sentir différemment sur tout ce qui peut affecter notre famille, puisque tu as pu penser à recevoir en secret des attentions de Philip Wakeham. Lors même que ce ne serait pas une chose qui me répugne sous tous les autres rapports, je m'opposerais à ce que le nom de ma sœur fût associé un seul instant à celui d'un jeune homme dont le père doit haïr la pensée même de quelqu'un des nôtres et nous mépriser. Avec tout autre que toi, je pourrais être certain que ce dont tu as été témoin, justement avant la mort de mon père, te préserverait de pouvoir jamais penser encore à Philip Wakeham en qualité d'amoureux. Mais je ne me sens pas assez rassuré à ton égard. Je ne suis jamais sûr de rien avec toi. Tantôt tu prends plaisir à une espèce de faux renoncement, et tantôt tu n'as aucune fermeté pour résister à ce que tu sais être mal. Il y avait une cruelle vérité dans les paroles de Tom, cette dure écorce de vérité que reconnaissent les esprits sans imagination et sans sympathie. Maggie frémissait toujours sous le jugement de son frère. Elle se révoltait et s'humiliait tout à la fois. Il lui semblait qu'il posait devant elle un miroir pour lui montrer ses propres folies et sa faiblesse, comme s'il était une voix prophétique lui prédisant ses erreurs futures. Et cependant, avec tout cela, elle le jugeait aussi lui-même. Elle se disait intérieurement qu'il avait des sentiments étroits et injustes, qu'il n'était pas capable d'éprouver ses besoins de l'esprit qui était souvent la source des fautes ou des sottises qui avaient rendu sa vie à elle une énigme difficile pour lui. Elle ne répondit pas tout de suite. Son cœur était trop plein, mais elle s'assit, appuyant son bras sur la table. Il ne servait à rien de chercher à persuader Tom qu'elle tenait à lui tout autant qu'autrefois. Il la repoussait toujours. Ce qu'elle ressentait de ses paroles se compliquait par l'allusion à la dernière scène entre son père et Wakeham. Et enfin, ce pénible et solennel souvenir l'emporta sur son chagrin immédiat. Non, elle ne pensait pas à ces choses avec une indifférence frivole, et Tom ne devait pas l'en accuser. Elle le regarda d'un air grave et pénétré et lui dit « Je ne saurais te faire juger mieux de moi, Tom, par quoi que je puisse te dire. Mais je ne suis pas tellement étrangère à tout ce que tu sens que tu le supposes. Je vois aussi bien que toi qu'en raison de notre position à l'égard du père de Philippe, mais non pour d'autres motifs, il ne serait pas convenable, il serait mal à tous, d'entretenir l'idée d'un mariage. Et j'ai renoncé à lui comme fiancé. Je te dis la vérité, et tu n'as aucun droit de ne pas me croire. Je t'ai tenu parole, et tu n'as jamais trouvé de fausseté en moi. Non seulement je n'encouragerai pas Philippe, mais j'éviterai même avec soin tout rapport autre que ceux d'une simple amitié. Tu peux me supposer incapable de tenir mes résolutions, mais au moins tu ne devrais pas me traiter avec un dur mépris pour des fautes que je n'ai point commises. Très bien, Maggie, dit Tom, adouci par cet appel. Je ne tiens point à aggraver les choses. Je crois, tout bien considéré, qu'il vaut mieux que tu voies Philip Wakeham, si Lucy désire qu'il vienne chez elle. Je crois ce que tu dis. Tout au moins, je pense que tu le crois toi-même. Je ne puis que t'avertir. Je désire être aussi bon frère pour toi que tu me permettras de l'être. » Il y eut un peu de tremblement dans la voix de Tom à ces dernières paroles. Et l'affection de Maggie lui revint subitement avec autant d'ardeur que lorsqu'ils étaient enfants et mordaient ensemble au même gâteau, comme si c'était un sacrement de réconciliation. Elle se leva et posa la main sur l'épaule de Tom. « Cher Tom, je sais que tu as de bonnes intentions. Je sais que tu as beaucoup à supporter et que tu as beaucoup fait. J'aimerais à être ta consolation et non à te chagriner. Tu ne me crois pas tout à fait mauvaise à présent, n'est-ce pas ?» Tom sourit à ce visage inquiet. Ses sourires étaient très agréables quand il se montrait, car ses yeux gris pouvaient paraître très tendres au-dessous de ses sourcils froncés. « Non, Maggie. Je puis devenir meilleur que tu ne le penses. Je l'espère. Et puis-je revenir un jour faire ton thé et revoir cette petite réduction de femme de Bob ?»« Oui, mais va-t'en vite, car je n'ai pas davantage de temps à perdre, » dit Tom en regardant à sa montre. « Pas assez pour me donner un baiser ?» Tom se baissa pour poser un baiser sur sa joue et dit « Voilà, sois bonne fille. J'ai à penser à beaucoup de choses aujourd'hui. Je dois avoir une longue consultation avec mon oncle Dean cet après-midi. Tu viendras chez tante Clegg demain ? Nous dînons tous de bonne heure, afin d'y aller pour le thé. Il faut que tu viennes. Lucy m'a dit de te le dire. « Ah, baste ! J'ai bien autre chose à faire, » dit Tom, en tirant violemment la sonnette dont il arracha le cordon. « J'ai peur, je me sauve, » dit Maggie, qui partit en riant. Tandis que Tom, avec une philosophie masculine, lança le cordon au bout le plus éloigné de la chambre, pas bien loin pourtant. L'idée d'une si petite chambre peut réveiller un souvenir qui, je m'en flatte, touchera le cœur de bien des hommes de position solide ou distinguée, qui ont pu se trouver ainsi logés, à la première étape de leur carrière dans le monde, se berçant de grandes espérances dans de très petits logements.